Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, au cœur du salon des éditions libertaires. Donc nous avons fait un studio mobile et nous venons d'écouter
Dark de Love to Love.
Ok, et maintenant on va partir avec le collectif ITEM, un collectif de photographes vidéastes qui vont nous expliquer les projections qu'ils font dans le salon des éditions libertaires et notamment une série de photos qu'ils ont fait sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est la lutte qui est menée, qui est un bout de la lutte contre l'aéroport, et nous avons des personnes qui viennent de l'Ouest et qui sont du coup dans la lutte contre l'aéroport et qui après vont nous parler un peu de l'actualité de cette lutte. Alors on commence avec toi Romain qui nous présente le collectif ITEM.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le collectif ITEM, on va essayer de faire court. Donc c'est une équipe de 9 personnes aujourd'hui. Donc une vidéaste réalisatrice qui travaille aussi le son. C'est 5 photographes, un graphiste et une chargée de projet. Donc c'est un collectif qui s'est créé il y a une douzaine d'années maintenant et qui est tourné autour de la photographie et enfin l'image documentaire au sens large. Donc nous on se donne les moyens de produire des reportages de manière indépendante. À côté de ça, on a également un espace de diffusion qui est un lieu d'exposition au bas des pentes de la Croix-Rousse. Je fais un peu de promo. C'est au 3 impasse Fernand Rey. Voilà, donc avec une programmation tournée autour de la photographie documentaire. Voilà, pour faire simple. Et on enchaîne sur le sujet
ou... Bah, du coup, c'est quoi vos sujets de prédilection de votre collectif ou ce qui vous intéresse?
Alors c'est assez large. Bon, chacun a des problématiques qui suit sur plusieurs années, on va dire des travaux de fond. Voilà, il y a Bertrand Godillère notamment qui a travaillé pendant plusieurs années à Lyon autour des mobilisations pour défendre les sans-papiers et éviter les expulsions. Moi je travaille aussi depuis plusieurs années autour de la musique et des réseaux un petit peu underground, ce qu'on appelle le do it yourself, voilà, notamment autour de à Lyon de Grand Zéro. Après, les uns les autres aussi, on vadrouille un petit peu partout sur la planète. Là récemment, il y a un photographe qui revient de Birmanie. Voilà, qui a travaillé autour de la condition des femmes là-bas notamment. Un autre photographe, Julien Brigaud, qui revient de Glasgow, qui a travaillé sur la ville et sur le côté très riche et le côté très pauvre de la ville. Alors il y a une expression qui symbolise bien le contexte de la ville de Glasgow aujourd'hui, mais en fait je l'ai oublié, je suis désolé, mais voilà, c'est parce que c'est une ville qui est vraiment, qui est hyper symbolique et qui représente qui a des écarts sociaux notamment, puis de richesse entre les populations qui est vraiment hallucinante. Voilà, et puis voilà, à côté de ça, comme les sujets qu'on va montrer là aujourd'hui, c'est autour de la mobilisation contre l'aéroport, notamment sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Il y a certains photographes aussi qui sont allés autour des mobilisations contre le réaménagement de la place Taksim à Istanbul. Donc c'était au mois de mai et juin dernier.
Ben ça, justement, est-ce que tu peux nous présenter les projections qui vont avoir lieu au salon cet après-midi? C'est à 14h, je crois.
Oui, 14h, oui. Alors, donc la première qui est sur Notre-Dame-des-Landes revient essentiellement sur la période des expulsions de l'automne dernier, donc entre la mi-octobre et on va dire la fin novembre, et qui revient également aussi sur la manif de réoccupation qui a eu lieu le 17 novembre. Donc c'est un montage entre guillemets multimédia, puisqu'il mélange un enchaînement de photos et un montage sonore qui a été réalisé par Jean-Gabriel Delpouche.
Qui est aussi un animateur de Radio Canu.
Voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième donc revient plus en profondeur, j'ai envie de dire, sur les événements de la place Taksim. Donc je fais un petit résumé rapide de ce qui s'est passé dans le courant du mois de mai et juin. En fait, à Istanbul, la place Taksim, c'est un peu le centre névralgique de la ville. C'est un espace piéton et puis un parc qui ouvre sur un énorme boulevard piéton qui s'appelle Istiklal, où il y a quelque chose comme 1 million de personnes qui circulent chaque jour. Donc c'est vraiment un point central. Et en fait, la mairie, sans vraiment faire beaucoup de consultations, a mis en place un projet de réaménagement de cette place pour construire un centre commercial. Donc, dès la fin du mois de mai, la mobilisation est partie de très peu de gens, un petit groupe d'écologistes d'une cinquantaine de personnes qui ont manifesté sur la place. Et puis, vu le passage qu'il y avait, très rapidement, c'est un mouvement qui a pris une ampleur sans précédent et qui a mobilisé jusqu'à, je crois, 2,5 millions de personnes dans plus de 80 villes du pays, et qui s'est étendu à aussi une contestation plus large autour de la politique du gouvernement de Erdogan. Donc voilà. Et les travaux sont c'est trois travaux différents. Un qui revient vraiment sur le temps de l'évacuation du parc, c'est-à-dire que en fait pendant 3 semaines à peu près, il y a énormément de gens qui sont installés vraiment pour occuper le terrain et empêcher le début des travaux. Et puis le 16 juin, je crois, il y a la police qui est intervenue de manière assez forte. C'est une évacuation qui a causé, je crois, 9 morts et puis énormément de blessés.
Pour le contexte de cette place Taksim, en permanence, il y a des camions de policiers qui occupent cette place. Et du coup, des bus, ce qui était beau, c'est qu'ils avaient viré les policiers, parce que après, le contexte en Turquie est quand même assez répressif et assez fort. Du coup, il y a eu une brèche qui a été ouverte à ce moment-là, qui est assez rare quand même sur cette place d'Istanbul. Et aussi, Istanbul a assez régulièrement des menaces d'attentats qui seraient faites par des groupuscules anarchistes, des groupuscules kurdes. Et du coup, assez régulièrement, il y a une tension comme ça qui est posée sur la ville, qu'elle peut être menacée par ce qu'ils appellent en Turquie les ennemis, qui sont leurs ennemis intérieurs en Turquie, qui seraient du coup les groupuscules communistes kurdes ou anarchistes.
Voilà.
Pour faire un petit contexte répressif de ce pays.
Exactement. Voilà, donc ça c'est le premier petit sujet qui sera diffusé autour de Taksim. Et puis le deuxième revient, enfin c'est tourné un mois après, donc dans le courant du mois de juillet, où toujours, il y avait toujours un petit peu ce contexte d'occupation et de violence policière. Faut pas l'oublier. Mais à côté de ça, voilà, c'était un mois après. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens de la ville, les commerçants des rues avoisinantes qui ont pris, qui ont pris conscience de l'intérêt de pouvoir occuper l'espace public, de pouvoir réfléchir, entre guillemets, un peu différemment, en tout cas s'unir de manière à essayer de contester les grandes décisions qui se mettaient en place, notamment autour de la ville. Donc c'est un petit peu une émulation citoyenne et aussi une réappropriation des espaces publics. Et puis le dernier... Le dernier petit sujet, c'est un petit peu plus une réflexion de fond sur aujourd'hui les moyens qu'on peut mettre en place autour de ce genre de mobilisation. Donc c'est un portrait d'un jeune étudiant qui a mis en place le live streaming sur cette période-là. Donc voilà, il s'appelle Mehmet, il raconte comment en direct, avec des outils très très simples comme son smartphone, un petit trépied, il a réussi à mettre en place un véritable outil de contournement de toute l'information des masses médias et de ce que lui appelle les mensonges d'État. Et puis du coup pouvoir c'est un outil qui du coup a été très utile pour pour les manifestants, puisqu'ils savaient vraiment en temps réel où est-ce que telle ou telle action se passait, ou telle arrestation se passait. Voilà, je vais pas en dire plus, parce que je vais inviter les gens à venir voir, parce que c'est très intéressant justement cet outil-là. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le 3.0, si on veut dire ça comme ça, parce que le Bertrand et Catherine qui ont travaillé là-dessus sont aussi partis d'un constat lié à tout ce qui s'est passé autour du printemps arabe, dans le sens où les réseaux sociaux ont été vraiment utiles là-bas pour relayer l'information, pour se détacher des grands médias et pouvoir communiquer de manière indépendante. Et là, vraiment, c'est un stade supérieur, enfin plus loin, puisque vraiment la diffusion se fait en temps réel et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que même si on se fait arrêter, le support d'enregistrement, même s'il est cassé, en fait tout ce qui a été tourné est archivé et déjà diffusé en ligne. Voilà, donc je vous invite à venir voir à 14h.
Du coup, c'est le rendez-vous à 14h ici dans le salon des éditions libertaires, du coup maison des associations. J'oublie à chaque fois le numéro de la rue. Du coup, on est rue d'Enfer Rochereau.
22
rue d'Enfer Rochereau, si vous avez envie de venir voir cette projection qui sera à 14h. On se fait une petite pause musicale pour repartir sur la ZAD et la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Hey cousin, te souviens-tu les émeutes en 2005 ou l'Arzac 2003? C'est toujours les mêmes qui trinquent le tiers-monde en dehors de l'Europe. Forteresse, les ghettos, les précaires et des millions de détresse. Rien n'arrête les vendeurs d'armes et leurs médias de masse. Rien ne stoppe les publicitaires, ils prennent tout l'espace. Et alors que la donne écologique est au rouge, c'est les plus gros pollueurs qui repeignent tout en vert. À l'heure actuelle, ne pas mettre un high-kick dans le décor, c'est se voiler la face et fouetter ses propres frères. Car pendant qu'il rajoute le mot durable à chaque phrase, il continue de piller, de faire le coton, le gaz. Beaucoup de coton, goutte à goutte, on va démonter tout ça. Faut bloquer les ports, les routes et les villas, les séguer là. Faut grimper les tours des firmes et déchirer tous leurs contrats. Réquisitionner les terres et y faire pousser la RIA. Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yo Mango. Comme l'Assemblée populaire des peuples de Wafaka. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terre, comme les anti-nucléaires. Rouya, désobéir, c'est maintenant plutôt la mode. On ne peut plus se nourrir de leurs animaux malades. Presque toutes les rivières charrient leurs pesticides. Et silence quand la France supervise un génocide. On entendra toujours dire que tout casser c'est pas bien. Ou le sang piternel, à quoi bon ça sert à rien. On oublie que pour avoir mis la planète à genoux, ils n'ont pas été vraiment vite compréhensifs et doux. C'est la course contre la montre, il faut maintenant tout péter. Avec les pays du sud, c'est la solidarité. Nous on est truffés d'amour, pas de puce RFID. L'ADN de la connerie, on va tous le décoder. Faut coûte que couteau, goutte à goutte ou pas démonter tout ça. Pour bloquer les Bolloré, les Monsanto, les Areva. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le terroir. Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide made in France au champ de Mars. Comme le mouvement des Contis défonçant la préfecture. Comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs. Comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières. Rocking à Deniso ou Tikenja en victoire. Les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore. Comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers. Comme SL, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Ispera Sankara ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies. Faut coûte que couteau, goutte à goutte, tout pas démonter tout ça. Faut bloquer EADS, Dassault, Thompson et Matra. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces pébons de l'ENA. Faut coûte que couteau, goutte à goutte, tout pas démonter tout ça. On a obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion, on leur fout le terroir.
On est toujours en direct du Salon des éditions libertaires sur Radio Canu. On vient d'écouter
102.2 FM.
102.2. On désobéit de Duval MC. Et donc on continue sur la lutte contre l'aéroport et Notre-Dame-des-Landes. Et bah alors, est-ce que Michel et Jean-Pierre, pardon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu. Vous êtes impliqué dans la lutte depuis un moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient et puis où ça en est maintenant rapidement?
Voilà, alors moi je suis de Poitiers, mais au comité de soutien Notre-Dame-des-Landes aussi sur place. Un petit rappel sur cette lutte. Bon, il s'agit de construire un aéroport. Je pense que beaucoup d'auditeurs le savent, mais enfin, on va le rappeler. Et ça correspond à quoi, construire un aéroport dans la région? Ça correspond à deux objectifs. L'un, c'est de fournir du profit au BTP, au lobby du bâtiment et travaux publics. Donc, en l'occurrence, c'est Vinci. Ça pourrait être un autre des grands constructeurs. Fournir donc du travail, de l'argent, du profit. L'autre objectif, c'est restructurer la métropolisation de la région Nantes, Nantes-Saint-Nazaire, en diminuant les parts de terres agricoles et en augmentant les parts de zones de profit et la reconstitution de quartiers riches, etc. C'est les deux objectifs. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans, qui avait été mis en place, proposé, enfin jamais réalisé, ça revenait un peu comme un serpent de mer, et là, l'arrivée à la fin du gouvernement Sarkozy, ça a été relancé, et bien entendu continué par le gouvernement socialiste. Donc c'est un projet aussi bien de droite que de gauche. Il faut rappeler que le maire de Nantes est le premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Cette lutte, on en a tous entendu parler, plus ou moins par les médias, ça a été une lutte multiforme, avec de multiples tendances, de multiples manières d'agir, dont l'une des principales et qui a relancé le mouvement, c'est l'occupation par un certain nombre de gens suite au camp climat en 2008. Au camp climat, on est passé d'une lutte contre l'aéroport, qui était une lutte un peu idéologique, mais de pétition, etc., à une lutte sur le terrain, directement.
On peut dire que c'est les habitants qui ont appelé au camp climat, et que c'était parce qu'il y avait une mobilisation, notamment
des habitants. Les habitants, il n'y avait pas d'habitants sur la ZAD.
Non, mais sur cette période, il y avait encore des personnes qui habitaient sur cette zone et qui étaient autour, oui, et qui étaient concernées et qui ont notamment appelé. C'est quand même une base au début, la lutte au début elle est locale, et je trouve ça intéressant quand même de la rappeler, parce que là elle a pris après une forme plus nationale, et au moment des réoccupations on a eu l'impression que c'était des jeunes de toute la France qui arrivaient pour trouver un terrain de jeu, mais pas qu'il y avait il y avait plus une essence politique, comment c'était traité par les médias au moment.
Oui, il y a pas ça tel que les médias le disaient, oui. Donc, bon, ça a été occupé, ça a créé toute une série d'initiatives, donc on peut pas traiter là très très rapidement. Le pouvoir a riposté, le pouvoir a mené une opération dite César de destruction. Les opposants, toutes tendances confondues, ont mené une contre-opération dite Semtazat, c'est-à-dire de réoccupation, de voulant montrer et symboliquement que les terres, ça servait à se nourrir et qu'on était contre l'aéroport, etc. Bon, là, avant de te passer la parole, je voudrais dire qu'à partir de là, en ce moment, on est dans une période de 2-3 mois extrêmement importante et charnière. Pourquoi ? Parce que le gouvernement semble avoir redonner du punch au projet. On a eu une déclaration il y a quelques jours de Cuvillier, le ministre des Transports, disant que le projet se ferait. Ayrault a dit que le projet allait se faire. Donc ils remettent, et puis Bruxelles donne aussi un certain nombre de signes en faveur, dont tu nous parleras après. Donc, mais il y a un enjeu donc que tu aborderas après, toi, sur Semtazad. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui se mettent à vouloir refaire de l'agriculture sur le terrain, et donc qui mettent en réensemencement, si on peut dire, réellement ou symboliquement, ces gens-là, pour l'instant, sont des squatteurs. Pas à mes yeux, mais enfin oui, à mes yeux peut-être, mais sont des squatteurs, et si on les vire maintenant, on vire des squatteurs. Si on vire ces gens-là en mars, avril, mai, en mai, on va virer des agriculteurs. Même si c'est les mêmes. Je veux dire, ça a une valeur symbolique différente auprès de la population. Ça sera mal vu, comme l'opération César, détruire des maisons, c'est plus ou moins mal vu. Or, maintenant, ils ne vont plus pouvoir virer, d'ici un mois et demi, ils ne vont plus pouvoir virer les gens qui occupent à cause des lois sur l'hiver. Et que donc, soit ils virent maintenant, dans les 15 jours, un mois qui viennent, soit ils sont coincés jusqu'en mois de mai. Enfin, ça, c'est l'analyse qu'on fait. D'où l'importance d'être prêt à riposter, y compris dans tous les comités de soutien partout. Si jamais on entend qu'il y a un début de réoccupation, il faut vraiment sortir dans la rue, quoi. Partout, partout, partout.
Et du coup, le collectif ITEM, quand vous étiez il y a un an à prendre des photos, c'était ça qui se passait, c'était l'appel à réoccuper quand le camp climat, les personnes étaient revenues sur la ZAD, avaient occupé les maisons qui avaient été abandonnées, plein de fermes qui avaient été abandonnées par les gens parce qu'il y avait le projet était assez long pour virer toutes les personnes, réacheter les maisons, et il restait encore quelques personnes qui... Non, il n'y avait plus personne qui habitait sur la ZAD.
Il y avait du monde encore. En fait, la première réaction, j'ai envie de dire, aux expulsions, ça a été effectivement vraiment de réoccuper, et le terme de Semtazad était pas forcément déjà en place. C'est tout simplement, c'était une réaction entre guillemets à chaud, de dire vous avez détruit des maisons, vous avez détruit des espaces d'habitation, et du coup, eh ben on va réinvestir d'autres lieux, on va en créer des nouveaux, etc. Voilà, donc il y avait pas dans un premier temps d'objectif de mettre en place des cultures. Il y avait déjà le premier constat qu'il y avait des terres en culture qui avaient été complètement détruites, et puis des habitations. Mais là, du coup, la première réaction avait été de reconstruire des habitations. Et puis c'est vrai que l'hiver arrivait, et du coup c'est à la fin de l'hiver, je crois, qu'il y a eu aussi cette démarche de réinvestir les terres pour les exploiter. Voilà.
Alors, pour revenir et coller un peu à ce qu'a dit Jean-Pierre, les opposants avaient interpellé la justice, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale ou même européenne. Et suite à une grève de la faim assez dure, le gouvernement avait pris du recul en disant que tant que les demandes judiciaires n'auraient pas été conclues, il ne commencerait pas les travaux. Alors là aussi, on voit que les choses se précipitent. Au niveau, je dirais, national, le oui à la construction de l'aéroport est à peu près acquise. Et là, il reste toutes les interventions qui étaient faites au niveau de Bruxelles. Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, bien évidemment, il y a les groupes politiques qui sont représentés. Et là, on voit d'une manière assez évidente comment le PS et la droite, les droites et les forces de gauche s'associent pour valider, pour voter, valider le projet. Alors la première décision, les opposants avaient demandé à ce que la Commission européenne se déplace, viennent sur place pour vérifier la qualité et l'originalité du biotope, de les zones humides, etc. Ça a été refusé, donc là encore vote les gens de gauche et gens de droite, donc refusé. Et là, il y a quelques jours, les opposants avaient attaqué en disant que l'État n'a pas une entreprise privée pour réaliser un aéroport. Là encore, la Commission européenne a refusé a validé le fait que l'État français peut parfaitement donner de l'argent à fond perdu à la création d'un aéroport. Et la dernière information, c'est signé de la ZAD. Des gens ont été visiter la société qui est chargée de répertorier les espèces sur le territoire, les zones humides particulières. C'est la société Biotope, hein, et elle a été cambriolée, ses locaux ont été forcés, tous les ordinateurs ont été pris, les sources d'information pour essayer, il y en a eu pour 500 000 euros de vol, dégradation, etc., suivant bien sûr l'information de Biotope, dont le but avéré est de trouver les connexions qu'il y a entre Vinci, bien évidemment, et cette société qui déjà a eu des ennuis sur le terrain, a eu en plus des soupçons de connexion directement avec Vinci pour essayer de faire que le projet soit plus crédible. Et donc, on en est à la période, très certainement, d'études des documents pour voir où ça en est. Et voilà les dernières informations. Mais je rejoins Jean-Pierre quand il dit qu'effectivement, les choses se précipitent et on risque d'avoir une volonté politique et policière et même de justice très rapide.
Ben merci. Du coup, peut-être tout ce qu'on peut dire pour conclure, c'est... de surveiller toutes ces informations. À Lyon, il y avait un comité de soutien qui a été mis en place l'an dernier. En fait, moi, je ne sais pas trop où il en est, mais je crois qu'il existe encore.
Il faudrait le... Non, il... faudrait le réactiver très vite.
Ouais, bah, peut-être qu'il est encore actif, c'est pas parce que je ne suis pas au courant qu'il n'est pas actif. En tout cas, ça a surveillé. Et puis, il y a un site qui est fait par des gens qui sont sur la ZAD, qui s'appelle zad.nadir.org, sur lequel il y a l'actualité sur place. Et que donc, on peut regarder quand on est à Lyon dans la région.
Et après, pour faire juste un lien avec ce qui se passe sur la lutte contre l'aéroport, il y a la lutte contre le train TAV qui est en cours. Et pareil, le gouvernement a fait des déclarations suite au sommet franco-italien, comme quoi ils voulaient le faire, ils allaient mettre en place ce projet. C'est un train qui relie Lyon-Turin. Il y a une énorme mobilisation du côté de l'Italie. En France, c'est un peu plus difficile. Et pareil, à rester vigilant et à se mobiliser sur ces sujets. Et si vous avez envie de voir des images de l'occupation, la réoccupation de l'année dernière, c'est le rendez-vous, et tout à l'heure à 14h22 rue d'Enfer-Rochereau à la Maison des Associations. Et on continue, vous êtes bien sur Radio Canut qui est au cœur du Salon des Éditions Libertaires. On continue avec un petit morceau et après trois personnes vont nous parler de la transformation du rapport salarial. Musico.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé. Vous serez